Ça arrive tous les mois, pas toujours à l'heure, pas toujours au bon moment. C'est douloureux parfois, maux de dos, crampes abdominales, émotions au taquet, dit-on, comme Laetitia Gaillet vient de le dire. Et ça dure. Les règles de l'adolescence à la ménopause, c'est bout à bout 5 années entières de la vie d'une femme. La moitié de l'humanité y est confrontée, mais personne n'en parle. C'est en chuchotant qu'on ose à peine demander si vous n'avez pas un tampon pour dépanner, ou alors c'est de la plaisanterie bien grivoise. Ah, t'es de mauvaise humeur, les Anglais ont débarqué ou quoi. On raconte beaucoup plus facilement sa dernière tourista. Pourquoi les menstrues sont-elles encore à ce point tabou? Comment en parler plus librement? Voilà ce qu'on se demande ce matin, et ce sera jusqu'à 11h.
France Inter, grand bien vous fasse, Thomas Chauvineau.
Bienvenue à tous pour ce cercle des femmes. J'avais envie de vous parler d'une méthode pour vous passer des serviettes hygiéniques pendant les règles. Tu vas où, Victor?
Hein? Bah, j'ai entendu que c'était le cercle des femmes. Moi, je croyais que c'était l'atelier lâcher prise, donc...
Donc tu penses que les règles, ça concerne que les femmes?
Non, j'ai pas dit ça. Mais effectivement, c'est plus un problème de femmes.
Ah, plutôt... c'est un problème? Non, alors donc c'est bien que tu restes.
Oui, d'accord. C'est pas donc, ce que je voulais, voilà, c'est une expression, d'accord.
Je propose qu'on chante.
Connecte avec la lune. J'aime mes règles. Quand elles sont brunes, je les assume.
Problème.
Et non, donc ce n'est pas qu'une histoire d'homme, un extrait du prochain film d'Éric Judor, Problemos, qui sortira en mai prochain. Une histoire d'humanité plutôt, comme je le disais en préambule. Hein, les règles, les ours, les ragnagnas, on les appelle comme on veut, ont un impact au spectre large de l'éducation à l'économie, en passant aussi par la santé publique et même l'environnement, on le verra. Hein, 45 milliards de protections périodiques jetées annuellement, ce n'est pas rien. 4 invités pour parler de cette question aujourd'hui. Jacques Parker, bonjour.
Bonjour. Bon,
évidemment, ce n'est pas votre vrai nom, vous êtes auteur du blog Passion menstrue et d'un livre à paraître le 17 mai prochain aux éditions Flammarion, Le grand mystère des règles pour en finir avec un tabou vieux comme le monde. Élise Thiébaud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, vous avez vous déjà commis un ouvrage sur la question Ceci est mon sang, sorti à la découverte en janvier dernier. Au téléphone avec nous Camille Emmanuel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, auteur, vous, de 100 tabous, ne plus jamais rougir de nos règles, publié à la Musardine en mars dernier, et en duplex d'Aix-en-Provence, Hélène Jacquemin-Leverne, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avec nous, merci hein, aux techniciens de France Bleu Provence. Vous êtes gynécologue, sexologue et auteur, vous, du sang, du sang des femmes. Là encore, le mot tabou, symbole et féminité. Quand on regarde 4 ouvrages, sur 4 ouvrages, 3 titres portent le mot tabou. Élise Thiébaud, c'est un tabou encore aujourd'hui, en 2017
La preuve que c'est un tabou, c'est que il a fallu attendre 2017 pour que, effectivement, en même temps, 4 livres sortent sur ce sujet. Bon, celui de Hélène est sorti bien avant, mais il y a une espèce de conjonction des étoiles qui fait que aujourd'hui, on peut enfin lever ce tabou, commencer à revenir sur ce qui nous opprime.
Comme tous les lundis, Aline Perraudin de Santé Magazine est là avec nous également. Bonjour Aline.
Bonjour Thomas.
Et Thibaut de Saint-Maurice pour sa petite philo de la vie. Salut Thibaut.
Bonjour Thomas.
Ça va les jambes? Thibaut a couru le marathon hier. Félicitations, le marathon de Paris. Bravo Thibaut. Hélène Jacquemin-Leverne, vous dites dans votre livre qu'il faut démystifier, c'est dans l'introduction du livre me semble-t-il, démystifier le sang des femmes.
C'est-à-dire que déjà pour parler du mot tabou, le tabou en polynésien c'est tapua et ça veut dire les règles. Et le mot tabou, ça signifie tout simplement les règles. Voilà, donc Freud a pris ce mot pour parler du tabou qui est mais démystifier le sang des femmes, parce que le sang, à la fois lorsqu'il est contenu, il est signe de vie, de puissance, et quand il se répand, il peut être signe de mort, signe d'angoisse. Et je pense que aussi toutes les contraintes que l'on donne aux femmes, c'est cette puissance qu'elles ont finalement à pouvoir répandre le sang une fois par mois sans en mourir. Parce que si les hommes sont blessés quelque part et que le sang se répand, au bout du compte, il va y avoir la mort, pas chez la femme. Donc ça, c'est une première chose. Et puis l'autre chose, c'est qu'aussi toutes les sociétés, quel que soit leur niveau d'hygiène, ont des rituels pour tout ce qui sort du corps, que ce soit les selles, les urines et le sang, qui est à ce moment-là considéré comme une souillure. C'est-à-dire que tout ce qui est contenu et pure et voilà peuvent et dans le sens de la vie. Et ce qui est répandu est de l'ordre de la souillure, ce qui peut expliquer le pourquoi on a mis les femmes à l'écart dans nos sociétés.
C'est peut-être aussi...
On leur a interdit beaucoup de choses. On leur a interdit d'être peut-être... dans les salaisons,
oui.
dans les charcuteries, dans tout ce qui est de l'ordre de la vie. Elles ont eu beaucoup d'interdits en raison de ça, parce qu'on associe ce sang à la souillure.
Au contraire, et c'est ce que vous racontez, Camille Emmanuel, dans votre livre, dans les champs en Anjou au 19e, on les envoyait surtout quand elles avaient leurs règles, parce que le sang de la menstrue était réputé pour, disait-on au 19e, en tout cas, tuer les limaces.
Oui, c'est-à-dire qu'il était tellement maléfique que qu'on incitait en fait les paysannes le jour de leurs règles à traverser les champs, à soulever leurs jupes et à traverser les champs pour répondre à leur sang menstruel. Et on est au 19e siècle, il n'y a pas si longtemps que ça. Et ce qui est marrant, c'est aujourd'hui, on n'en est plus là. On n'est plus obligé pendant nos règles de courir les champs sans culotte pour tuer les limaces. Mais on est en effet les héritiers et les héritières de ces croyances populaires, traditionnelles, religieuses aussi parfois. Et aujourd'hui, quand on demande encore à des jeunes filles, moi j'ai fait l'exercice dans mon bouquin, quand on les interroge sur leur rapport à leurs règles, il y en a pas mal qui vont dire « moi j'aime bien avoir mes règles parce que ça me nettoie de mes impuretés ». Comme si le sang menstruel était fait de plein de petits microbes et que avoir ses règles, ça permettait de se libérer en fait de se nettoyer, alors que c'est absolument pas le cas.
Ce que vous dites aussi, ce que vous dites aussi, Camille Emmanuel, c'est que 98%, alors il faudra nous expliquer d'où vous sortez ce chiffre, mais 98% des femmes se cachent et cachent leur protection hygiénique dans l'espace public. Ça ne se montre pas.
Oui, alors ça c'est un chiffre, c'est un sondage qui avait été fait par une marque de tampons hygiéniques. Et 98% exactement, elles dissimulent quand lorsqu'elles se trouvent dans un lieu public. Et moi j'avais ça le tampon sachet de coke. C'est-à-dire que quand on va dans un open space, on demande à sa collègue un tampon, on va prendre ce tampon et on va le cacher comme si on avait de la drogue, quoi. Et moi j'interroge dans mon livre en disant pourquoi. Justement encore en 2017, on cache autant ça. 56% des femmes aussi les cachent à leur domicile. Comme si la vue d'une serviette ou d'un tampon allait déranger leur conjoint, qu'ils allaient rentrer dans la salle de bain et partir en courant en disant « Oh mon Dieu, c'est une femme !» Non, voilà. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est voir comment on a un petit peu intériorisé la question de la honte, la question du secret, et qu'on apprend encore aux jeunes filles aujourd'hui à être discrètes. Et moi, cette injonction à la discrétion, elle me dérange. Parce que on va s'amuser des petits garçons qui font des concours de jets de pipi. On va s'amuser du fait que ils ont des pollutions nocturnes. Enfin voilà, ça va pas être quelque chose forcément honteux. Mais la jeune fille, elle, 12 ans, on lui dit surtout. Sois discrète. Pourquoi ? Je dis, et la question n'est pas de faire l'hélicoptère avec sa ficelle de tampon, mais il n'est pas question non plus de répéter cette injonction à la discrétion et au secret.
Et de la subir. Jack Parker, oui. Vous êtes l'auteur du blog Passion Menstrue. Lever le tabou, ça passe aussi par l'image. Et sur votre blog, il y a beaucoup d'images détournées. Je pense notamment à, on peut voir ce tableau. De Courbet, très célèbre, l'origine du monde qui a été repris et du sexe de la femme s'écoule un filet de sang. Oui. Est-ce qu'on peut détourner comme ça les œuvres ? Est-ce que c'est aussi comme ça justement qu'on peut lever les tabous ?
Absolument, et d'ailleurs je me suis fait faire un t-shirt avec l'origine du monde dessus que j'arbore fièrement dans la rue, même si il y a beaucoup de regards qui me
traviole. Avec ce filet de sang ?
Non, juste l'original parce que c'est, ma démarche à la base c'était la démystification du sexe féminin et ensuite, après mes recherches, je me suis rendu compte qu'en fait il y avait un sujet beaucoup plus large que ça, qui étaient les règles, mais ça passe aussi par l'image de l'origine des règles, parce que ça sort quand même d'un orifice qu'on a tendance à glorifier, qu'on a tendance à sexualiser, et on fait tout un foin pour pouvoir voir la nénette d'une meuf, même en maternelle on s'amuse à se les montrer parce que c'est un truc extraordinaire, mais par contre à partir du moment où elle saigne, ça devient dégueulasse et horrible et monstrueux. Et du coup, en détournant ces images et en jouant avec l'esthétique artistique, en jouant avec les représentations d'un sexe féminin, en jouant avec les représentations du sang, que ce soit du vrai sang ou du sang cartoon ou du sang paillette, peu importe, On
élargit. Beaucoup d'artistes se sont emparés de
voilà, énormément, de énormément. Et on joue justement avec ce tabou et on force les gens à regarder en face cette fonction corporelle qui les terrifie autant. Et en leur offrant une vision différente des règles, parce qu'il y en a 10 milliards des représentations possibles, quoi.
Le tabou, c'est justement l'objet de la petite philo du lundi de Thibaut de Saint-Maurice.
La petite philo de la vie quotidienne.
La vérité n'est jamais amusante à dire, sans ça tout le monde la dirait.
Thibaut de Saint-Maurice.
Et vous avez l'intention de me la dire?
Oui.
Et toute la vérité sera faite sur le tabou. Thibaut, avons-nous besoin de tabou?
Tu restes là, tu ne bouges pas. Allô?
Oui, Mégane. Je voulais juste vous dire que si vous ou Don vous vous demandez où est Sally, elle est rentrée à la maison.
Oh, je suis soulagée.
J'ai appelé dès qu'elle est arrivée.
Elle a dit pourquoi?
Eh bien, ma fille est devenue une femme.
Oh!
Elle voulait juste être avec sa mère.
Je comprends, bien sûr. Vous lui direz que je l'embrasse très fort?
Sans faute.
Extrait donc de la série Mad Men, hein, qui parle d'ailleurs sans trop en parler quand même, hein, des premières règles d'une jeune fille. Parce que les règles font partie, vous l'avez dit Thomas, de ces tabous culturels et sociaux qui se caractérisent par le fait qu'on n'en parle pas, ou du moins qu'on ne les représente pas, et que même on peut y associer parfois des valeurs négatives, comme on l'a dit, l'impureté, la honte ou la faiblesse. Alors au sens courant, un tabou c'est donc juste quelque chose dont on ne parle pas, parce qu'il semble que personne ne veut en parler. C'est une limite culturelle, sociale, morale dans nos conversations, et bizarrement aussi, c'est une limite aussi de notre idéal de transparence démocratique. Bref, on vit tous avec des tabous que l'on reprend à son compte, ou au contraire des tabous dont on s'affranchit pour devenir, comme on dit, un garçon ou une fille sans tabou.
Mais alors, est-ce que ça sert à quelque chose, ces tabous ?
Alors pour le comprendre, il faut faire un petit détour par l'anthropologie. Les anthropologues s'intéressent aux tabous parce qu'ils remarquent que toutes les sociétés et les cultures qu'ils étudient, des plus simples aux plus complexes, ont des tabous. Au sens anthropologique, un tabou c'est un interdit, qui est le plus souvent d'ailleurs la conséquence d'un rapport au sacré, un peu comme si c'était le signe du sacré ou l'indice du sacré. Alors un lieu, des objets, des esprits, des événements, des parties du corps peuvent donc être tabous. Mais le tabou le plus étudié par l'anthropologie, c'est assurément celui de l'interdiction de l'inceste. Lévi-Strauss, par exemple, tente d'expliquer pourquoi ce tabou-là est universel en faisant l'interdit qui pousse les clans à aller chercher des partenaires de reproduction en dehors de ses propres membres. Et il fait de ce tabou la condition de la survie, du développement et de la prospérité d'une société.
Les tabous seraient donc créateurs de liens sociaux.
Oui, en quelque sorte, et une société pourrait se reconnaître aux tabous, aux interdits que ses membres partagent. On pourrait dire « dis-moi quels sont tes tabous et je te dirai dans quelle société tu vis ou quelle culture tu partages ». Avoir de l'interdit en commun, c'est avoir les mêmes limites et c'est la condition pour pouvoir vivre ensemble. Mais la question la plus difficile là-dedans, c'est de savoir qui décide des tabous que l'on partage, qui fixe les limites. Tous les tabous sont-ils légitimes? On s'accordera sans doute assez facilement sur la prohibition de l'inceste ou l'interdiction de la pédophilie, mais qu'en est-il des règles? Le tabou n'est pas qu'un lien social, c'est aussi une structure, et toute structure est un dispositif qui repose sur ou impose un rapport de force. Que les règles soient tabous constitue en fait un dispositif de domination sociale des femmes. C'est les déposséder de leur corps en renvoyant leur corps à la fonction sacrée, entre guillemets, hein, du don de la vie. C'est les enfermer dans cette seule fonction rituelle. Il faut alors parler des règles, en accepter la représentation sociale et culturelle, pour que les femmes puissent penser, parler et se représenter leur corps par elles-mêmes. Et pour ceux que cela dérange, rien n'empêche de le faire avec pudeur, mais pourtant sans tabou. Voilà, nous avons donc besoin de tabous pour vivre ensemble, mais tout le paradoxe, c'est qu'il nous faut aussi redéfinir ensemble régulièrement ces tabous, en discutant précisément.
Merci Thibaut de Saint-Maurice, vous restez avec nous pour parler des règles ?
Ah bah avec plaisir.
Un sondage récent nous apprend que le sujet est tabou dans 75% des couples. Qu'en est-il, mon cher Thibaut, chez monsieur et madame de Saint-Maurice? Est-ce qu'on en parle à la maison?
Mais on en parle à la maison et les protections ne sont pas cachées dans la salle de bain. Et au contraire, c'est l'occasion d'un échange et d'un partage sur ce qui fait aussi l'intimité du corps de l'autre.
Comment avoir un rapport joyeux avec ses règles, pour reprendre les propos de l'une des invitées de Grand Bien Vous Fasse aujourd'hui. Racontez-nous, hein, homme, femme, le rapport que vous avez avec l'armée rouge, comme on dit en Russie. Un téléphone 01 45 24 7000, une adresse mail grandbienvousfasse@radiofrance.com et sur Twitter avec le hashtag grandbienvousfasse. Il est 10h22 et vous êtes bien sur France Inter. Les Français d'Isaac Dillusion, Cajun et toute la programmation musicale de l'émission est à retrouver sur le site franceinter.fr.
Grand bien vous fasse. Thomas Chauvineau.
Quatre invités pour lever aujourd'hui le tabou des règles. Au téléphone, Camille Emmanuel, qui est journaliste et auteur de ce livre Sans tabou, Jack Parker, qui est auteur du blog Passion menstrue, Élise Thiébaud, journaliste également et qui a publié Ceci et mon sang, et la gynécologue et sexologue Hélène Jacquemin-Leverne en duplex depuis Aix-en-Provence. Et puis avec nous également Aline Perraudin de Santé Magazine. Bonjour, rebonjour Aline. Les tampons, les serviettes, la Moon Cup dont on parle aussi, c'est un marché que celui des protections périodiques, un gros marché avec également un gros impact sur l'environnement, mais on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans.
Non, c'est un grand mystère. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de pétitions qui circulent pour demander la composition détaillée des protections périodiques. Pourquoi on ne sait pas? Parce que c'est la réglementation ne l'oblige pas aux fabricants de protections périodiques. C'est à l'inverse, par exemple, des cosmétiques ou des dispositifs médicaux. Bah, c'est comme un mouchoir en papier, un tampon. Et quand vous regardez, bah, vous voyez pas grand-chose, vous voyez rien. Alors, si vous allez voir sur les sites, on a quelques informations, mais plutôt génériques. Alors, ça contient du coton, de la viscose, des matières plastiques. Voilà, mais on n'a pas vraiment une composition détaillée. Alors, certains médecins s'en inquiètent parce que on a récemment parlé de chocs toxiques. le choc toxique. Ça a été médiatisé notamment avec l'affaire d'une mannequin américaine qui a été amputée au printemps en 2012, et l'affaire a été médiatisée en 2015. Et donc, voilà, est-ce que c'est la composition des protections périodiques, notamment des tampons, pourrait favoriser ce choc toxique? On aimerait, enfin beaucoup de consommatrices aimeraient le savoir, et aimeraient surtout savoir ce qu'il y a dedans.
Et vous avez cherché et vous n'avez pas trouvé.
Alors, il y a eu l'année dernière, en 60 millions de consommateurs qui analysaient des protections périodiques, qui a trouvé notamment, en plus de tout ce qui est ces matières, des traces de polluants, notamment de dioxines et de pesticides. Et là, aujourd'hui, quand on veut regarder ce qu'il y a dedans, ben, on a des informations génériques, hein, j'ai regardé. Mais c'est un bon début, mais ça ne suffit pas. Par exemple, il n'est pas fait mention des colorants, des additifs, des parfums. Voilà, on n'a pas tout et surtout on ne sait pas quels sont les tests de sécurité qui ont été effectués pour savoir eh bien, si la composition du tampon favorise la toxine qui est responsable du choc toxique, hein, qui est produite par le staphylocoque doré que l'on a présent notamment dans le vagin, sur le nez ou sur la peau.
Hélène Jacquemin-Leverne, vous êtes gynécologue et sexologue. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de la composition des protections périodiques?
Oui, il faut s'en inquiéter. Il faut aussi prévenir les femmes que les tampons, on peut pas les garder trop longtemps, qu'il faut essayer de les changer toutes les deux heures. Donc, porter un tampon toute la nuit peut être toxique. Mais moi, je voulais rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure. Je pense quand même que les mentalités évoluent. Très récemment, le journal L'Équipe, qui est lu par les hommes essentiellement, a fait
c'était
sa
L'Équipe
une
magazine,
sur les règles.
C'était pas le journal, c'était L'Équipe magazine.
Ou L'Équipe magazine qui a fait sa une sur les règles. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Et puis encore récemment, des cafés qui maintenant mettent un logo. Ici, on peut changer sa Moon Cup. Et donc, ça veut simplement dire qu'il y a un lavabo à l'endroit où il y a les toilettes. Et donc, ils l'affichent carrément. Donc, ça évolue quand même.
Ça
voilà,
évolue.
Pas
Aline
rester
Pérodin.
Sur des choses négatives. Et puis, l'Assemblée nationale qui a quand même vécu une baisse de la TVA sur justement les protections qui sont un réel problème. Moi qui travaille dans des milieux très défavorisés où parfois la contraception qui donne des saignements comme le stérilat, la progestérone ou l'implant sont une gêne parce que les femmes ne peuvent pas se payer les protections
et en effet,
dont elles ont besoin.
L'Assemblée nationale a fait passer la TVA à 5,5%, cette fameuse taxe rose dont on parlait beaucoup récemment, mais s'y est repris à deux fois tout de même. Ouais. Je note qu'il a fallu un deuxième vote. Aline Pérodin.
Ça évolue, mais ça évolue pas tant que ça. Parce que quand on regarde, par exemple, les retards de diagnostic, par exemple, de l'endométriose, qui est une maladie qui peut se réduire par des règles douloureuses, mais encore beaucoup de femmes ne le disent pas, ne consultent pas, pensent que c'est normal. Donc, un retard de diagnostic de 7 ans, donc faut le dire, avoir des règles douloureuses, ce n'est pas normal.
Nous sommes aussi au téléphone avec Véronique. Bonjour Véronique.
Bonjour.
Vous vouliez intervenir en nous racontant que pour vous, en tout cas, vous avez la sensation que ça évolue et plutôt dans le bon sens. C'est moins tabou, de moins en moins.
Tout à fait, puisque moi, quand je repense à ma propre expérience, j'ai été étonnée d'apprendre, quand ma fille a été réglée au tout départ, elle est allée voir son père, lui a montré ses sous-vêtements pour savoir si c'était tout à fait normal, la couleur, voilà. Alors que moi, je cachais tout pour que mon père ne le sache pas, et je m'étais même fâchée après ma mère quand j'avais appris qu'elle avait annoncé à mon père que j'étais formée. J'avais l'impression, voilà, je portais ça un peu comme une honte.
Et vous êtes directrice d'école, n'est-ce pas?
Aussi. Et donc je faisais remarquer que avant, il arrivait rare fois qu'on ait quelques jeunes filles qui aient besoin de protection périodique et on les dépannait avec nos propres ressources, si j'ose dire. Alors que maintenant, dans l'armoire à pharmacie, on a des protections périodiques parce que j'ai l'impression que la formation avance et que de plus en plus, il nous arrive d'avoir en CM2, même en CM1, des petites filles qui se forment. Voilà.
Néanmoins, c'est dans l'armoire à pharmacie.
C'est
comme un médicament.
Oui, tout à fait. Comme ça, ça évite, parce que c'était compliqué en fait. C'est vrai que les collègues, elles n'avaient pas forcément besoin de protection. Donc, s'il fallait faire le tour des collègues, etc., maintenant on sait s'il y a besoin, c'est dans l'armoire à pharmacie et ça simplifie tout pour tout le monde.
Ben merci de votre appel. J'en profite pour lire aussi. Merci Véronique et bonne journée à vous. J'en profite pour lire ces messages que nous recevons sur franceinter.fr. Celui-ci qui pousse une gueulante, hein, c'est écrit dans le texte, contre le corps médical parce que la souffrance pendant les règles n'intéresse pas les médecins. Cet autre message, ne pourriez-vous pas vous révolter sur le fait que les serviettes périodiques comme le papier a une TVA à 20%. Alors donc c'est faux puisque nous venons de le dire. Hein, l'Assemblée nationale l'an dernier a fait voter une loi contre cette taxe rose. Et puis ce message d'Yvonne qui nous dit « Je me souviens du seau où ma grand-mère et ma mère faisaient tremper les serviettes en éponge avant de les faire bouillir dans la lessiveuse. Je regardais enfant cette eau brune avec étonnement. » Je voudrais vous faire écouter une publicité qui, à mon avis, va pas vous mettre de très bonne humeur et peut-être signe aussi que les choses, en tout cas du côté de la pub, ont du mal à changer.
« Excusez-moi, et la danse, Madame Bertrand ?» Peut-on danser quand on a ses règles ?
Oui, vous le pouvez, avec modération. En revanche, il est déconseillé de patiner, monter à cheval ou pratiquer des danses tournantes comme la valse. Il faut être raisonnable et éviter tout exercice trop physique.
Les temps ont changé. Avec Mamou, vous pouvez bouger autant que vous voulez. Son cœur SecureFit unique reste en place et vous protège parfaitement. Mamou, osez tout.
Camille Emmanuel, dans votre livre « Sans tabou », vous parlez, vous, carrément d'un marketing de la honte.
Oui, marketing de la honte, c'est le principe, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de marques de protection hygiénique aujourd'hui qui, d'apparence, ont l'air plutôt, on va dire, pro-femmes, dans le sens où ils disent, voilà, grâce à ce tampon, grâce à cette serviette, je peux enfin faire du cheval, je peux enfin aller au bureau, etc. Mais le message, sous-entendu, à force de répéter ça, c'est de dire, sans cette merveilleuse serviette, c'est pas possible. Typiquement, je pense à une marque qui, dernièrement, a fait une publicité en disant, grâce à cette serviette, je peux enfin être proche des gens. Et on voit une jeune fille qui danse dans un ascenseur avec plein de gens, quoi. Donc, en fait, le message, le sous-texte de ces publicités, c'est de dire, sans cette serviette-là, tu peux pas être proche des gens puisque tu es sale, puisque tu sens mauvais. Et en fait, ce marketing de la honte, c'est proposer sans arrêt des solutions, mais surtout mettre l'accent sur le problème. Et le problème, c'en est pas un, puisque ce marketing de la honte, par exemple, il fait croire qu'il faut lutter contre les odeurs. Or, moi, j'ai été élevée par des femmes, j'ai des sœurs, je travaille avec des femmes, je prends le bus avec des femmes. Jamais je me suis dit dans ma vie, genre, dis donc, celle-là, elle a pas changé son tampon, elle sent mauvais, quoi. J'ai jamais senti une femme à côté de moi qui avait ses règles.
Je pense que c'est pareil pour les hommes, pour le coup. Hein.
Voilà, on s'est jamais dit, genre, mais dis donc, Monique, faut qu'elle change son serviette dans une réunion au travail, quoi. Et pourtant, ces publicités, elles disent, attention à l'odeur, attention à la tâche, attention à l'odeur, attention à la tâche, sans arrêt.
Aline donc, Perraudin.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et en plus, donc, les fabricants mettent des parfums qui sont potentiellement irritants. Mmh. Et surtout, on ne sait pas ce que ce sont. Quels sont et c'est quoi comme parfum exactement? Là, on ne voit pas non plus dans les notices.
Ce qu'on peut constater aussi, c'est que, alors que c'est un marché quand même conséquent, hein, 30 milliards de dollars par an pour les produits d'hygiène féminine, c'est qu'au cours du siècle passé, ce secteur n'a presque pas connu d'évolution. La seule évolution qui date de 1969, c'est un petit ruban adhésif pour que la serviette périodique adhère à la culotte. C'est tout. Ou alors la coupe menstruelle qui date des années 30, le tampon qui date lui aussi des années 30. Les évolutions sont très très rares.
Oui, la composition a énormément changé. Elle a changé en 30 ans, on est passé
d'une composition... Oui, mais on est resté sur le même principe.
On est passé d'une composition... Non, ça a beaucoup changé quand même. C'est-à-dire, on est passé d'une composition 90% 100% coton à quelque chose qui ne comprend quelquefois plus que 10 à 20% de coton, de surcroît imprégné de pesticides, ce qui est quand même un peu embêtant.
Avec des polymères absorbants, donc dont on ne sait pas vraiment...
Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a assez peu d'innovation en la matière.
Alors, des innovations, il y en a eu beaucoup sur la forme, si, sur l'emballage, sur la manière d'adhérer ou de ne pas adhérer, etc. Mais je voudrais revenir sur ce que disait Véronique tout à l'heure, à propos du fait que les règles interviennent de plus en plus tôt, dès le CM2 aujourd'hui, dit-elle le plus souvent. Il faut expliquer une chose, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que les femmes ont aussi souvent leurs règles. 450 à 500 fois dans une vie, ça n'arrivait pas. Les premières règles survenaient au 19e siècle à 16 ans. On est arrivé à 12 ans. 11 ans, ça veut dire qu'elles interviennent très tôt et que nous les aurons très souvent. Donc ce marché, il a aussi pris
une ampleur
exponentielle, avec des impacts aussi sur notre santé qui vont faire qu'on va être en contact avec ces produits-là bien plus souvent qu'avant, parce que notre vie, normalement, est plus longue, et puis parce que nous maîtrisons notre fécondité et qu'on n'enchaîne pas les grossesses et l'allaitement. Donc les règles, c'est aussi la raison pour laquelle ça n'est plus le tabou que c'était, c'est que c'est une réalité quotidienne très différente de celle qu'ont même vécu nos mères ou grand-mères. Donc, en une seule génération, ce rapport aux règles a totalement été modifié.
Jacques Parker, du blog Passion Menstrue.
Oui, donc pour en revenir aux innovations sur les protections hygiéniques, c'est vrai que depuis quelques années, mais vraiment 5 ans maximum, il y a énormément d'innovations, mais c'est des innovations qui sont assez peu accessibles. Il faut avoir les moyens, il faut avoir un train de vie qui va avec.
Par exemple.
Donc il y a les serviettes lavables qui reviennent à la mode.
Comme les couches lavables, hein, d'ailleurs.
Voilà,
mais
exactement.
Est-ce que c'est une innovation?
Oui, parce qu'elles sont différentes d'avant. Elles sont quand même, elles sont construites sur le modèle des jetables. Donc elles sont avec des boutons pression. On les sent pas autant. C'est pas les énormes harnais que nos grand-mères portaient. Enfin, c'est quand même vachement plus pratique. Et puis surtout, en théorie, on a accès à des machines à laver. On a accès à de l'eau courante. Donc ça, c'est quand on a une vie plutôt aisée et cool. Mais voilà, ça nécessite quand même d'avoir un train de vie qui est pas le même que quand on roule sa serviette dans du PQ et qu'on la jette dans une poubelle. Il y a les sous-vêtements de règles aussi, qui sont des sous-vêtements absorbants, qui permettent pour certains modèles de se passer complètement d'autres protections hygiéniques et de saigner librement dans sa culotte. Donc ça demande quand même de repartir donc un peu en arrière sur le mode de pensée, le mode de vie, de saigner librement. C'est quand même un truc auquel on n'est pas habitué. Et en même temps, on est quand même au sec, on est quand même à l'abri. Et c'est la solution que je trouve la plus cool. Mais ça coûte super cher, quoi. C'est 30 balles la culotte. On met pas qu'une culotte pendant ses règles, en théorie. Donc du coup, il faut en acheter un bon arsenal quand même. Et voilà, ça demande d'avoir les moyens de se créer du matos, quoi.
L'une des inventrices de ce type de culotte, il y en a d'autres, hein, mais l'une d'entre elles expliquait qu'elle avait eu cette idée parce qu'elle était en Afrique du Sud, qu'elle voyait une petite fille qui n'allait pas à l'école.
C'est ça.
Et qui lui a dit, qui lui pose la question, mais pourquoi tu vas pas à l'école? Et la petite fille lui répond, c'est ma semaine de la honte.
Oui, c'est ça. Et c'est hyper répandu dans les pays en voie de développement. Il y a énormément de filles qui se retrouvent déscolarisées parce qu'elles perdent le rythme, parce que chaque mois, elles perdent une semaine de cours, parce qu'elles n'ont pas accès à des protections hygiéniques, parce que c'est la honte, parce que elles ont pas accès non plus à des sanitaires qui leur permettent de rester au sec et de rester propre et de limiter les infections. Et du coup, leur santé est mise en jeu chaque mois à cause de leurs règles et leur éducation aussi. Et c'est pour ça que le retour à des protections lavables et réutilisables est cool pour ces pays en développement là, parce que déjà ça coûte moins cher économiquement, c'est une avancée extraordinaire, et ça pollue moins, donc ça c'est cool. Et ça limite les infections. Donc voilà, mais c'est en fait, je pense qu'il faut avoir un maximum de choix pour s'adapter au train de vie de chacun et chacune, parce que on n'a pas tous les mêmes ressources, on n'a pas tous la même hygiène de vie, et il faut prendre ça en considération aussi.
Nous sommes au téléphone avec Aurélie. Bonjour Aurélie.
Oui, bonjour.
Alors vous êtes énervée qu'on ne puisse pas parler simplement des règles, ce qu'on essaye de faire depuis 40 minutes là, remarquez.
Oui, assez fréquemment, je vois quand on parle de ces règles, souvent on n'utilise pas le terme, on dirait gna gna, et comme si on pouvait pas dire simplement règles. Et je suis maman de deux petits garçons, donc il y en a un qui a maintenant 5 ans, et on n'est pas spécialement pudique à la maison, ce qui fait que parfois on a les portes et les toilettes ouvertes. Et quand mon aîné avait 2 ans et demi, 3 ans, il a dû voir un jour histoire de changer une serviette hygiénique, et donc il m'a demandé pourquoi il y avait du sang. Et en fait, je lui ai expliqué simplement en accent sur le côté phénomène biologique. Enfin, c'est les femmes ont un appareil reproducteur, c'est un utérus. Bon, j'ai pas utilisé ces mots-là, mais j'ai dit c'est comme une petite maison qui est censée accueillir le bébé, l'embryon, quand il y en a un qui s'implante. Et s'il n'y a pas de bébé qui vient, la maison, elle doit être nettoyée, c'est nettoyé avec le sang. Et donc c'est quelque chose qui arrivait tous les mois, que les femmes saignaient et que c'était comme ça.
Donc avec des mots simples, vous voulez dire?
Avec des mots simples, voilà, très simples. Et il a entendu, et bon, voilà, quoi, ça, Enfin, je vois pas pourquoi j'aurais dû le cacher, ou c'est quelque chose qui arrive fréquemment, que, ben oui, c'est du sang, mais bon.
Et alors, ça, c'est avec vos enfants, Aurélie, mais dans votre vie de tous les jours, au travail, ouais, ou avec votre conjoint, Thibaut de Saint-Maurice nous disait qu'il n'y avait pas de tabou dans la famille de Saint-Maurice, mais enfin, vous, est-ce qu'il y a une gêne? Est-ce qu'on en parle ou pas?
Non, il n'y a pas de gêne. Non, vraiment pas. Puis, pour moi, c'est important aussi que mon compagnon sache quand j'ai mes règles, parce que souvent, ben, j'ai un peu mal au ventre, j'ai peut-être mal à la tête. Donc c'est quand même un phénomène physique qui est lié et que j'ai tous les mois. Enfin, physiquement, ça a un impact sur mon corps. Donc pourquoi est-ce que j'en parlerai pas à mon compagnon ?
C'est donc aussi une histoire d'homme. Merci Aurélie de nous avoir appelé de Marseille aujourd'hui. Les règles donc dans Grand Bien vous fasse ce matin. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Un petit bang bang. Et puis juste après, on se demande si les règles doivent disparaître.
France Inter, Grand Bien vous fasse, Thomas Chauvineau.
I was five and he was six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, I shot you down, bang, bang. You hit the ground, bang, bang. That awful sound, bang, bang. I used to shoot you down. Music played and people sang. Just for me, the church bells rang. Now he's gone, I don't know why. And till this day, sometimes I cry. He didn't even say goodbye, he didn't take the time to lie. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down.
Baby shut me down, bang bang, Nancy Sinatra, il est 10h45 sur France Inter.
Thomas Chauvineau, sur France Inter.
J'ai du retard dans mes règles ce mois-ci.
Combien de jours?
J'en sais rien. Quelques-uns. 7 jours.
Oh, tu as encore du sursis.
Tu te trouves devant le peloton d'exécution, mais on ne t'a pas encore tiré dessus.
Une fois, j'ai eu 10 jours de retard.
C'est vrai? Et t'avais couché avec quelqu'un?
Non. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le dire à Mr. Big?
Non, je vais rien lui dire avant d'être sûre de... Avant de savoir si... Si vraiment je... Non, je vais pas aller lui dire en face tant que je sais pas comment finir la phrase.
Vous parliez de quoi?
De rien.
Un extrait de Sex in the City pour ce Grand Bien vous fasse consacré aujourd'hui aux règles avec 4 invités, les journalistes Camille Emmanuel et Élise Thiébault, la blogueuse Jack Parker et la gynécologue Hélène Jacquemin-Leverne, et puis vos réactions également qui nous arrivent notamment sur franceinter.fr. Lisa qui nous dit on peut aussi les voir comme une bénédiction, le moment du mois où l'on peut faire l'amour sans protection, également leur régularité rassurante qui nous rappelle que tout est cyclique. Jack Parker dit attention, non, pas sans protection.
On peut tomber enceinte pendant ces règles, c'est rare, mais ça arrive, donc c'est dangereux, il faut faire attention.
Patrick nous dit, un des plus grands tabou, à mon sens, ne consiste-t-il pas à présenter les femmes avec des règles bleues lors des innombrables publicités? C'est vrai que on l'a un peu évoqué, mais la publicité est assez trompeuse à ce niveau-là. Cette autre demande de Lily qui nous dit « Allez-vous nous parler des cups menstruels ?» Nous l'avons un peu évoqué tout à l'heure avec Aline, hein, cette autre protection hygiénique. Et puis ce
périodique.
Périodique. Et puis ce message qui nous dit, qui nous pose cette question. Bonjour, est-il possible de ne pas avoir de règles? Moi, je ne les ai pas depuis l'âge de 18 ans. C'est un vrai bonheur. Nous n'en avons pas besoin, à part au moment où il y a la volonté d'avoir un enfant. Je suis persuadée que dans une ère plus moderne, les femmes n'auront plus de règles. Hélène Jacquemin-Leverne, vous êtes gynécologue. Dans votre ouvrage, vous expliquez en effet qu'il y a une demande de plus en plus fréquente chez vos patientes, chez les patientes, hein, pour faire disparaître ce sang.
Oui, parce que c'est plus confortable, parce que la contraception hormonale diminue le flux sanguin. Et je voulais rebondir sur ce qui était dit tout à l'heure, qu'on avait plus de cycles plus longtemps. C'est vrai que la ménarche, donc les premières règles, surviennent plus tôt. Mais par contre, avec la contraception, les femmes ont des règles beaucoup, beaucoup moins abondantes, beaucoup moins fatigantes.
Mais est-ce que, est-ce que le sens de l'avenir, est-ce que le sens des règles, c'est, comme le dit cette auditrice, dans cette ère moderne, de ne plus en avoir?
Voilà, il ne faut pas généraliser. Il y a des femmes qui ont envie d'avoir leurs règles et je ne voudrais pas non plus que ces femmes, on les considère comme pas normales parce qu'elles ont envie d'avoir leurs règles. Mais bon, beaucoup de femmes avec la contraception sont très contentes de ne pas avoir de règles, surtout lorsqu'elles ont des règles douloureuses. Ça change complètement la vie. Même les jeunes filles qui passent des examens quand elles passent le bac, si c'est l'idée de se dire que c'est le jour où ça va tomber et qu'elles ne vont pas pouvoir passer leurs épreuves, eh ben elles prennent même pendant 3-4 mois la contraception orale pour ne pas avoir de règles. Et pour les femmes, le sens des règles, c'est plus maintenant quelque chose de l'ordre de la bonne santé. C'est-à-dire, si j'ai des cycles réguliers, c'est que je suis en bonne santé, mais ça est beaucoup moins un signe du féminin. Elles ne se sentent pas femmes parce qu'elles ont des règles. Alors, du moment qu'elles savent qu'à l'arrêt de la contraception, le cycle reprend et que les règles vont revenir, elles peuvent tout à fait suspendre ce temps sans se sentir avec une problématique par rapport à leur féminité.
Aline
et ça,
Bérodin,
ça me semble vraiment un soulagement pour beaucoup de femmes.
Que ça soit l'avenir, parce que quand on voit la contraception hormonale, il y a de plus en plus de défiance. Et donc, peut-être que les jeunes femmes aspirent plutôt à trouver des contraceptions plus naturelles et que de prendre des pilules en continu. Et on voit aussi, par exemple, lors de la ménopause, que des femmes souhaitent quand même continuer à avoir aussi des règles et donc prennent là un traitement. Donc c'est très complexe.
Qui ne redonne pas de règles. Le traitement hormonal substitutif de la ménopause ne redonne pas de règles. Et il est reconnu de façon unanime, scientifiquement, qu'il augmente de 20% le risque de cancer du sein. Donc... j'ai un petit problème avec ces traitements hormonaux substitutifs de la ménopause.
Et d'ailleurs, qui diminue, comme la contraception est beaucoup plus depuis l'augmentation de, comme vous le dites, du cancer du sein. Mais quand même, des femmes sont très très gênées de ne plus avoir de règles. Et la fin, on a parlé des règles, mais la fin des règles, c'est aussi, ça peut être pour certaines femmes quelque chose de très gênant.
Justement, nous sommes au téléphone avec Aurore. Bonjour, Aurore.
Oui, bonjour. Moi, j'appelle parce que voilà, j'ai 46 ans, donc j'ai pas un âge totalement canonique. Mais donc, ça fait un an que j'ai plus mes règles. Donc, on me dit qu'il semblerait que je suis en ménopause, etc. Et je voulais revenir sur cette idée du corps médical, déjà, qui s'en fiche un petit peu, en particulier les gynécos hommes, je sais pas pourquoi. Parce que, du coup, je suis pas mécontente de plus avoir mes règles, mais j'ai beaucoup d'effets secondaires, j'ai des bouffées de chaleur, etc., etc. Les hormones, comme on vient de le dire, c'est pas une très bonne idée. Et il n'y a pas d'intérêt des médecins ou autour de moi, on me parle de vapeur de belle-mère en se moquant un petit peu. Alors, comme je disais, quand on les a, on a honte. Quand on les a plus, on a honte. On n'ose plus dire qu'on les a plus parce qu'on me dit, ah, t'es trop jeune, ah, t'as des vapeurs de belle-mère, etc. Et il n'y en a pas de solution pour nous, en fait, jeunes femmes, entre guillemets, de 46 ans, pour nous soulager au niveau de nos symptômes, à part des pseudo-huiles essentielles, des pseudo-traitements un peu bidons. Et j'ai beaucoup de mal à trouver aussi des informations pour m'aider à passer ce mauvais cap qui peut durer, paraît-il, des années.
Donc là encore, un tabou après les règles. Merci Aurore de nous avoir appelé. Élise Thiébault, la présentation de votre livre, c'est « Journaliste a eu ses règles pendant 40 ans ».
Oui, on pourrait dire que le tabou de la ménopause suppose, et c'est un peu comme le silence qui suit du Mozart, c'est encore du tabou. On continue à taire ce qui nous arrive. Et moi, j'ai eu vraiment... C'est le moment où j'ai écrit ce livre, c'est le moment où j'avais la ménopause. Je commençais à sentir cette contrainte s'éloigner et j'avais effectivement strictement aucune réponse sur ce qui m'arrivait. Et ça a duré, je suis désolée de dire, ça a duré 6 ou 7 ans. J'ai envie de dire aussi qu'on peut le vivre autrement. C'était une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre. Les Chinois disent que la ménopause, c'est le nouveau printemps des femmes. Ne plus avoir ses règles, ça n'est pas un drame, comme avoir ses règles, ça n'est pas un drame. C'est une histoire que chacune va vivre différemment et de manière très personnelle. Il faut le voir avec attention et plaisir, faire du sport et manger différemment et cesser effectivement de recevoir ou de se reconnaître dans les injonctions négatives qui persistent sur la façon dont on est femme.
Ce que vous racontez aussi dans votre livre, c'est que de nombreuses femmes se construisent à partir de cette image-là des règles, c'est-à-dire cette image négative, hein, grandir avec l'idée qu'il y a quelque chose de soi qui sort et qui est considéré comme dégoûtant, et ce qui affecte soi-même, sa conscience, son estime, sa puissance aussi finalement.
Oui, s'intéresser aux règles, c'est s'intéresser à ce qui freine ma puissance d'agir, puisque ce par quoi on est désigné femme, ça y est, tu es devenue une femme, c'est ce qui est censé nous faire honte pendant 40 ans. Une semaine par mois, c'est beaucoup, même si cette honte est moindre, même si ça se... Et puis ensuite, on n'est plus honteuse parce qu'on a nos règles, mais parce qu'on est vieille, parce qu'on est parce qu'on a ces fameuses vapeurs de belle-mère qui peuvent être des choses très marrantes à vivre. C'est très marrant de s'enflammer d'un seul coup, en fait. Moi, j'ai trouvé que ça pouvait être quelque chose de très drôle. Si on ne le perçoit pas avec une version négative, ce que je voulais dire, c'est que ce soit les règles, que ce soit la ménopause, si on cesse d'adhérer, ce qui demande un gros travail sur soi-même et beaucoup d'humour, si on cesse d'adhérer à cette vision négative des choses, ça devient et ça peut devenir une aventure extrêmement drôle.
Camille Emmanuel, c'est ce que vous dites aussi hein, dans votre livre, qu'il faut aller au-delà, alors sans forcément glorifier les règles ou la nature féminine, mais c'est avoir un discours empathique, bienveillant sur les règles.
Oui, l'idée c'est pas de revenir à la glorification de l'éternel féminin ou de mère nature qui fait que les femmes sont connectées à la lune et tout ce discours là, c'est pas vrai. Je pense que voilà, mère nature, elle avait pas prévu qu'il y ait des jeunes filles de 20 ans qui passent des concours de maths pendant leurs règles. Donc voilà. Mais par contre, oui, je parle d'empathie, je parle de bienveillance, et là je suis d'accord vraiment avec Élise, c'est déjà, et pour moi ça passe par deux choses, une connaissance anatomique. Vraiment savoir ce que sont les règles, et ce que sont les symptômes des règles, mais aussi symptômes de la ménopause. On va sur Internet, on a 12 000 infos quand on est enceinte, on a 12 000 infos sur la sexualité, mais on n'a rien sur, par exemple, la ménopause. Donc le corps féminin, il est présent.
Ah si, on a des choses sur la ménopause.
Et érotique ou quand il est maternant, quand il est dans un rôle de maternité. Par contre, savoir ce qui va se passer, moi je veux savoir ce qui va se passer pendant ma ménopause. Alors il y a des façons de le savoir. Moi je sais que par exemple j'ai appris qu'il y avait beaucoup de données héréditaires. Donc moi ce que j'ai fait pour ce bouquin, mais j'invite chaque femme à le faire si elle a la possibilité de le faire, c'est d'interroger sa mère aussi. Savoir comment sa propre mère a vécu la ménopause, quels ont été les symptômes. Ça souvent, on vit les choses différemment, mais quand même il y a des choses qui sont héréditaires.
Mais sur le rapport donc, bienveillant, voilà. comment la généraliser cette bienveillance?
C'est le rapport bienveillant par rapport aux règles, c'est d'avoir des informations sur son propre corps, en parler avec d'autres femmes. Ce qui est super, c'est que quand on interroge les femmes sur leurs règles, on interroge les femmes sur leur rapport à leur corps et à leur féminité en général. Qu'est-ce qu'on leur a dit quand elles étaient gamines sur leur sexe, sur leur vulve, sur leur vagin, quand on leur a dit ce qu'étaient les règles? Qu'est-ce que leur a dit leur amoureux quand elle a dit j'ai mes règles, je peux pas faire l'amour, etc. Qu'est-ce qu'on leur a dit sur la ménopause et sur le corps vieillissant féminin? Donc vraiment, la bienveillance, c'est déjà en parler entre femmes, c'est en parler aux hommes, c'est faire en sorte, ce que j'explique dans mon livre, que les règles soient un sujet qui sort des toilettes des filles. Et que ça soit un sujet beaucoup plus partagé, parce que le partage, ça donne de la force, ça donne de l'assurance.
En 1978, la féministe Gloria Steinem répondait à une fausse question qu'elle s'était posée. Que se passerait-il si tout à coup les hommes pouvaient, comme par magie, avoir des règles et pas les femmes? Réponse donc de la féministe, évidente, les menstrues deviendraient une caractéristique enviable, virile, une source de fierté, les hommes se flatteraient de l'abondance et de la durée de leurs règles. Jack Parker, 2017, on y est toujours?
Ah oui, bien sûr. Bah, quand on voit dans les cours du collège, quand il y a les premières érections, les premières branlettes, les premières confrontations avec le porno, etc. Effectivement, moi je me souviens que les mecs s'en vantent énormément et c'est la honte si on ne l'a pas encore fait, c'est la honte si on n'a pas encore éjaculé, si on n'en est pas encore capable, alors que si nous on arrive dans le tas en disant « Ah ouais, bah moi j'ai eu mes règles hier », bah là tout de suite il y a tout le monde qui devient livide et c'est dégueulasse et c'est horrible parce que bah, c'est pas lié à quelque chose de viril, c'est pas lié à quelque chose de puissant, alors que je reste intimement convaincue que si, les règles ça a quelque chose d'extrêmement puissant. Enfin, c'est,
dans quel sens?
Bah, moi j'ai une vision un peu New Age des règles, hein. C'est ma vision à moi et je veux pas l'imposer à tout le monde. Mais je trouve qu'il y a quand même quelque chose de très puissant dans les règles qui, moi, me permet de... Enfin, j'ai la chance d'être une auteure freelance, donc je travaille de chez moi. Et du coup, chaque mois, mes règles, c'est le moment où je m'occupe de ma gueule. Je m'occupe que de moi. Je reste pendant... Parce que j'ai super mal pendant mes règles. Je reste pendant 2 jours alité à manger ce que j'ai envie de manger, à regarder ce que j'ai envie de regarder. Je me prends pas la tête à... Oui, non, mais il faudrait manger des trucs avec du magnésium. Je m'en fous. Si j'ai envie de manger des rillettes, je mange des rillettes. L'important, c'est de m'occuper de moi et de prendre soin de moi. Et c'est vraiment le moment où je reconnecte avec mon corps et où je suis fascinée, en fait, par ce qu'il est capable de produire. Enfin, ça m'arrive régulièrement de regarder la texture de mes règles quand je suis sous la douche et que ça tombe et qu'il y a un caillot qui tombe et que je me dis, waouh, c'est fou! C'est moi qui ai fait ça! Et je trouve ça incroyable. Et quand, surtout quand on prend en considération la puissance que ça a, si quelqu'un d'autre pouvait voir ce que moi je lâche sous ma douche, la plupart des gens seraient livides et choqués. Alors que moi, je regarde ça en me disant, waouh!
Eh ben merci à toutes les quatre d'avoir été en direct avec nous dans ce Grand Bien Vous Fasse consacré aux règles. Donc en ce lundi 10 avril, toute la bibliographie évoquée au cours de l'émission sur le site franceinter.fr à la page Grand Bien Vous Fasse. Cette émission se réécoute aussi et c'est aussi sur franceinter.fr. On se retrouve demain pour se demander comment mettre un coup d'arrêt au flot de haine qui se déverse sur les réseaux mal nommés sociaux, surtout en cette période électorale, et on attend déjà vos réactions sur franceinter.fr.